France Culture, les matins d'été, Guillaume Erner.
Et nous sommes en compagnie d'Olivier Rollin, le romancier publié Extérieur Monde chez Gallimard, une plongée dans les vies intérieures de l'auteur. Le livre se présente comme un labyrinthe dans lequel le lecteur est invité à se perdre au cœur des rencontres, des paysages, des lectures de l'auteur voyageur. Une suite de digressions, d'anecdotes et de rêves qui nous emmènent de la Colombie à la Mongolie en passant par l'Afghanistan et qui ensemble forment les lignes du visage de leur auteur. Olivier Rollin, vous aimez les endroits étrange et peu commun, c'est cela?
Oui, je n'ai pas une. Je suis allé une seule fois dans ma vie à Venise, par exemple. Je regrette d'ailleurs, mais je préfère, oui, c'est vrai, je préfère les endroits où on rencontre. Enfin, c'est un peu banal ce que je veux dire, mais je préfère les endroits où on rencontre pas des. Où je rencontre pas mes semblables, je veux dire par là, des Européens ou des Américains, des gens avec des appareils photo, etc. Enfin,
une fois à Venise, New York, c'est pas vraiment votre tasse de thé?
Non plus, mais c'est magnifique. New York, c'est la capitale de notre monde, mais justement, je m'y sens un peu, je m'y sens un peu déplacé. C'est bon. Côté
alors,
marginal,
en revanche, il est très largement question dans Extérieur Monde de lieux qui vous sont chers, comme par exemple l'Afghanistan. On y rencontre Douchanbé, on rencontre le Soudan. Qu'est-ce que vous trouvez dans ces lieux, Olivier Rollin, qui accompagne votre écriture, votre imaginaire?
Justement, ce sont des lieux extrêmement. Enfin, quand je dis, je n'adore pas l'Afghanistan, faut pas charrier. C'est un des pays les plus tragiques du monde en ce moment de nouveau. J'y rencontre des gens qui sont quand même très, enfin qui, voilà, dont la vie est extrêmement différente de la mienne, qui sont comme moi, mais dont la vie est quand même très différente de la mienne. Et par conséquent, je sais pas, j'y apprends, j'y suis surpris, ce sont des pays qui me changent plus que si je vais me promener, ce que j'aime aussi, hein, je disais que je suis allé qu'une fois à Venise, mais j'aime bien aller en Italie, par exemple, mais enfin, disons qu'en Italie, même avec toutes les caractéristiques bizarres de l'Italie d'aujourd'hui, c'est un pays qui me change peu, quand même.
Je cite un extrait d'Extérieur Monde. « Un autre voyage là-bas, je prends le bus à Khartoum pour Port-Soudan. J'ai envie de le raconter ici, je ne sais pas pourquoi, il revient, s'impose dans ma mémoire comme un de ces moments où on est radicalement étranger, un peu purifié par cet état qu'on recherche sans vraiment le souhaiter. Il n'y a pas que des agréments, un peu plus libres, parce qu'on n'est presque plus personne. » On a l'impression que dans ces voyages, vous cherchez en quelque sorte l'étranger, l'étrangeté, peut-être à vous fuir aussi, Olivier Rollin.
Oui, bien sûr, oui. Ça n'est pas désagréable, en effet, d'être, ou en tout cas, ça peut être désagréable, mais c'est extrêmement intéressant d'être le plus dépouillé qu'on peut de tout ce qui fait d'habitude vos oripeaux, vos attributs, votre identité, vos opinions, enfin toutes ces choses-là, vos habitudes, votre confort, enfin voilà, c'est pas mal de n'être en effet presque personne. Je ne dis pas, je suis pas un héros, hein, je veux dire, je n'aimerais pas passer ma vie comme ça.
Comme ça quand même.
Oui, enfin je passe beaucoup de temps à ça, mais je veux dire, je ne fais aucune métaphysique du voyage. Je ne suis pas
Vous n'êtes pas Nicolas Bouvier, alors justement.
J'ai toujours dit que je ne voulais pas être un écrivain, je ne suis pas un écrivain voyageur, j'essaie d'être un écrivain, voilà, c'est tout.
Mais alors, justement, parce que dans Extérieur Monde, vous citez Nicolas Bouvier, oui. Les usages du monde, donc, hein, le prototype en quelque sorte de l'écrivain voyageur. Vous dites que vous avez cédé à la demande insistante d'amis qui vous disaient il faut que tu le lises. Justement, quand vous êtes confronté à ces écrivains voyageurs, Olivier Rollin, Nicolas Bouvier, par exemple, qu'en pensez-vous?
Mais j'en pense Nicolas Bouvier, j'ai été très, admiratif de ce livre, parce que c'est tout simplement parce que c'est magnifiquement, enfin c'est très bien écrit autant que je me souvienne. Il y a très peu des écrivains dits écrivains voyageurs, etc. Il y en a très peu qui, à mon avis, qui soient des vrais écrivains, des gens qu'on lit pour la façon dont qu'ils ont de se débrouiller avec les mots. Et Nicolas Bouvier, oui, c'en est un.
Vous aussi, vous vous débrouillez plutôt pas mal avec les mots, et on retrouve donc à la fois l'aspect du styliste, la mélancolie, et puis aussi une certaine manière de digresser, car c'est un ouvrage que vous avez construit entièrement par digression, Extérieur Monde, Olivier Rollin.
Oui, c'est un. J'ai commencé ce livre. Je ne savais pas. Je le dis au début, mais c'est vrai. Quelquefois, ce qu'on dit n'est pas vrai. Oui, mais là, c'est tout à fait vrai.
C'est vrai. Parfois, vous mentez. Vous dites d'ailleurs dans un début de chapitre qu'il vous arrive de mentir. Oui.
Mais là, je me jetais à l'eau. Voilà, je me jetais à l'eau. Je savais que je voulais parler de beaucoup d'endroits du monde où j'étais passé, où il me semblait qu'il y avait des scènes, des paysages, des visages, etc., qui étaient intéressants. Et puis je voulais pas tellement parler de moi. C'est pas du tout des mémoires, ce livre. Bon, mais tout de même, je me doutais que quelque chose de moi apparaîtrait, peut-être plus que dans mes précédents livres.
Et alors?
Et ben oui, ça s'est fait comme ça. Mais ça s'est fait comme ça, en effet, par, comme dit Montaigne, par sauts et gambades. C'est-à-dire que je parlais d'une scène dont je me souvenais, mais je sais pas, où il y a Kaboul, peut-être, et du coup, ça me faisait penser à une autre scène au Caire, et puis même quelquefois, il y a aussi quelques scènes qui sont même carrément chez nous, enfin.
Différentes manières, en fait, de se mettre en risque. Alors, vous racontez comment, vous pouvez, au travers de voyages, par exemple, en Afghanistan, croiser des gens qui peuvent être inamicaux, se mettre en risque aussi parce que vous racontez à la fois vos amours et puis aussi...
Certaines amours.
Ça, je connais pas l'exhaustivité de ces amours-là, mais en tout cas, vous en racontez quelques-uns de ces épisodes et puis vous racontez aussi les amis chers, ceux qui ont disparu à vos côtés, Olivier Rollin.
Oui, mais... Ces choses-là sont apparues. Vous savez, on ne maîtrise pas toujours ce qu'on écrit, quoi. Et on ne connaît pas bien les raisons qui vous font écrire. Enfin, bon. Et puis, et après, ça prend son cours, comme un. Enfin, faut pas prendre des comparaisons trop emphatiques, mais enfin, un peu comme un fleuve, quoi. Et donc, oui, des choses personnelles, des choses même de ma vie sentimentale sont apparues, bien que j'y répugne assez, comme ça, au fond. Et puis aussi, oui, la mort de certains amis et la mort notamment d'un ami, parce que malgré tout, je n'en fais pas une histoire, mais tout le monde progresse vers la fin, mais moi, je suis plus un jeune auteur, la disparition des amis, par exemple. Et c'est une des choses qui me jette sur les routes, qui me jette dans le monde, c'est que le monde qui m'est le plus familier, disons le monde français, parisien, etc., mais il s'appauvrit parce que les copains, beaucoup, enfin certains, disparaissent. Donc il me semblait qu'il était légitime et pas trop indélicat de parler de cela.
Pourquoi vous avez eu envie de raconter cela? Est-ce que c'était une manière de fixer la mémoire? Est-ce que c'était une manière de rendre hommage à ces amis que vous appelez à l'aide de leur prénom, ou en tout cas d'un prénom, pour en quelque sorte faire, non pas leur oraison funèbre, mais en tout cas...
Non, mais pour dire... Ben parce que tout cela, aussi bien, si vous voulez, le caractère irremplaçable de l'amitié, la façon qu'ont les gens, c'est pas un livre sur la mort, hein, mais enfin, c'est vrai, il y a la mort de la façon, il y a la mort de certains amis, la mort de la façon qu'ont les gens de mourir est une chose qui est une des choses les plus importantes, finalement, qu'on puisse une des traversées. Je veux dire, quand on assiste à cela, c'est une des, ça restera une des expériences fortes de la vie. Alors rencontrer le commandant Massoud du temps qu'il était vivant en Afghanistan, c'est une expérience forte pour moi, mais voir un ami en train de s'en aller, c'est aussi une expérience forte. Et après tout, pourquoi est-ce qu'on écrit si ce n'est pas pour essayer de communiquer avec des mots choisis, scrupuleusement, les expériences fortes qu'on a eues.
Il y a cette construction en abîme, d'ailleurs, parce que vous racontez à cet ami qui va mourir votre voyage, le dernier voyage, Chine, avec la difficulté qu'il y a d'attirer son attention au vu du moment qu'il traverse. Et puis, vous nous racontez des voyages aussi bref. Il y a une manière comme cela d'essayer de combler une absence, l'absence de cet ami, avec la volonté de raconter quand même des histoires, Olivier Rollin.
Oui, quand j'ai commencé à comprendre ce que peut-être serait ce livre, j'ai voulu qu'il donne un peu le vertige. J'espère que j'y parviens. Je voulais qu'il y ait des centaines d'éclats comme ça, enfin de scènes, et qu'on passe sans transition, si, avec une petite transition, mais enfin que ce soit des zigzags permanents entre la surface de la planète et entre des scènes très intimes et puis des scènes plus qui concernent plus la grande histoire, enfin je sais pas, des guerres civiles au Liban ou ailleurs en Afghanistan justement, etc. Voilà, j'ai voulu qu'il y ait cet effet de tourbillon ou de vertige.
Et puis il y a également un collage, une convocation d'écrivains, notamment Borges. On écoute la voix de Borges, Olivier Rollin.
Étant aveugle,
oui.
Il y a 84 ans, étant incapable de lire, d'écrire aussi, je ne peux que dicter, il ne me reste que le voyage. Et je suis sûr de sentir le pays, quoique je ne le vois pas.
Oui.
Mais je m'en fais des images, sans doute fausses. Et puis, j'aime tellement voyager, me sentir entouré d'amis inconnus, dont je ne peux pas, enfin, tristement pour moi, te voir le visage, il faut que j'imagine tout cela. Oh, je ne l'imagine pas. J'écoute les voix, et chaque voix est tout aussi personnelle qu'un visage, évidemment, oui.
Vous racontez votre rencontre avec Borges, vous étiez dans une salle d'attente, Olivier Rollin.
C'est-à-dire j'étais dans son salon qui était une salle d'attente parce que tout le monde à Buenos Aires venait le consulter, lui demander des services, etc. Et donc je me suis sauvé parce que c'était impossible de parler avec lui dans ces conditions-là. Oui.
C'est décevant ou c'est ça finalement la personnalité du grand écrivain? Parce qu'aujourd'hui, désolé, hein, vous êtes un grand écrivain français, alors peut-être avez-vous une salle d'attente vous aussi, Olivier Rollin?
Non, je pense que si j'en ouvrais une, elle resterait quand même beaucoup plus vite que celle de Borges. J'ai peu de faveurs à accorder. Il m'arrive de faire des préfaces, mais bon. Et non, mais c'est bien. Sur le moment, j'ai été un peu embêté de pas pouvoir parler avec lui de Buenos Aires comme j'aurais voulu, etc. Et puis finalement, je trouve qu'il y a quelque chose de facétieux dans cette rencontre qui n'en a pas été une. Il ne m'a même pas vu, donc, puisqu'il était aveugle. Et voilà, je l'ai rencontré et je ne l'ai pas rencontré.
Qu'est-ce que vous lui auriez dit sur Buenos Aires pour ceux qui ne sont jamais allés à Buenos Aires, jamais allés là-bas? Qu'est-ce qu'Olivier Rollin a à dire sur cette ville?
Moi, à l'époque, ce qui me frappait, c'était le mélange. C'était une époque terrible, hein, quand même. Je suis allé pour la première fois, quand j'étais un peu journaliste, du temps des militaires. Et c'était quand même l'époque des disparitions, etc. Donc, il y avait un mélange de cruauté très grande. Et puis en même temps de raffinement très grand. C'est une ville très raffinée, c'est une ville où il y a une quantité de cercles de musique, de salles de concert, etc. C'est une ville où les gens jouent de la musique dans les rues, il y a des théâtres magnifiques, enfin voilà, des écrivains, n'en parlons pas. Donc c'était ce mélange de vieux raffinements européens, italiens et de férocité qui faisait, je ne dirais pas le charme de Buenos Aires, mais sa marque particulière, quoi. Évidemment, j'aurais aimé parler de ça avec lui.
Oui, vous êtes un peu modeste. Vous dites que vous avez été un peu journaliste. Vous avez été tout à fait journaliste. Et les journaux qui vous ont employé et qui vous ont envoyé de par le monde ont eu le bon goût de ne pas vous envoyer à Venise, à Capri, bref, dans des endroits agréables. Ils vous ont envoyé dans des endroits étranges, par exemple à Port-Soudan, où vous avez été d'ailleurs par vous-même sans qu'on ait à vous y envoyer. Racontez-nous Port-Soudan.
Mais pour Soudan, j'ai écrit un livre qui s'appelle comme ça, et à l'époque j'étais assez déglingué, et donc j'avais essayé d'imaginer une ville infernale, la plus abominable possible. Et Port-Soudan m'avait semblé un bon candidat, une bonne candidate, mais c'était un Port-Soudan totalement imaginaire, la ville qui est dans le livre du même nom. Et puis après j'ai voulu aller voir à quoi ça ressemblait. En fait c'est quand même bien mieux que ça.
Et ça ressemble à quoi?
Bah ça ressemble à une grande ville très étalée, très clairsemée sur les bords de la mer Rouge. C'est pas très séduisant, on va dire, mais il y a des grands quais devant le port avec ce que j'aime bien, c'est la nuit, voilà, quand le soir tombe, et puis les gens qui jouent de la musique, qui chantent, qui jouent aux dames, qui font leurs prières, qui boivent du thé. Les hommes et les femmes sont non pas mélangés, mais en tout cas les femmes sont là. Le Soudan est un pays que j'aime bien, et je l'aime d'autant plus qu'il vient de se libérer, enfin, il s'est libéré déjà de son dictateur, et puis ensuite il y a eu cette répression affreuse des militaires, mais apparemment ça a l'air de s'arranger un peu. Je le cite dans le livre, d'ailleurs, enfin, un de mes correspondants là-bas m'a envoyé un message qui m'a bouleversé, disant viens fêter avec nous la liberté sur les bords de la mer Rouge, on t'attend. Bon, et je compte bien, je m'engage à y aller. Voilà, donc j'aime bien le courage du peuple soudanais, on dit toujours des choses qui ont l'air de lieu commun, la dignité, mais c'est vrai que c'est un peuple très digne, quoi, très très digne, et notamment qui ne fait aucune courbette devant les étrangers, mais non plus aucune, qui n'éprouve aucune agressivité vis-à-vis d'eux. Enfin, c'est j'aime beaucoup être au Soudan.
Puis tiens, on va prendre une autre ville de la géographie rolinienne, Bakou.
Oui, Bakou, oui. Eh bien, que vous dire, Bakou, bon, ça sent le pétrole. Et ça a beaucoup changé, j'y suis retourné il y a quelques années. Ça se construit à toute vitesse, parce que justement, il y a l'argent du pétrole. Donc, il y a des espèces de tours, comme partout, un peu dans le monde maintenant. Il y a la Caspienne. C'était une ville assez agréable. C'était une ville... C'était bien parce que c'était un islam très très tranquille. Enfin, on peut boire de la vodka dans les bistrots et les filles se baladent en mini-jupe et ça ne gêne personne. Voilà, à part ça, c'est une dictature. Bon, il faut quand même le dire.
Enfin, c'est quand même du tourisme dans des endroits où il n'y a pas de touristes, quoi.
Oui, ah oui, non, mais ça me...
Vous n'aimez pas les touristes ?
Mais je n'aime pas les pauvres, non. Enfin, je n'aime pas quand ils... Je comprends ce qui les pousse à... Après tout, c'est une curiosité sympathique, légitime, qui les pousse à connaître le monde, mais en général, ils sont pas curieux, justement. Et puis, il faut... Oui, enfin, ils gâchent un peu le monde, quoi. Et une de mes tristesses, c'est quand je reviens de loin et que je reprends l'avion, il y a toujours un moment où il y a un hub et où tout d'un coup, on se trouve dans l'avion pour Paris. Et là, de nouveau, on commence à parler ma langue. J'adore ma langue. Bien sûr, c'est mon outil. C'est mon petit monde, c'est mon microcosme, mais j'aime bien entendre parler les autres langues et être immergé dans d'autres langues que je comprends mal ou pas du tout.
Vous racontez d'ailleurs là aussi l'imaginaire des avions. Vous dites que vous collectionnez les billets d'avion, notamment ceux de compagnies très rares, ceux qui vous permettent d'aller en Afghanistan, mais pas uniquement, Olivier Rollin.
Oui, c'est vrai qu'il y a une... Il est de bon ton de déprécier les voyages en avion, surtout que maintenant qu'on
et oui, calcule les empreintes carbone d'Olivier Rollin.
elle est malheureusement assez forte, en effet. Mais je ferai ce que je peux. Mais oui, il y a une poésie, il y a une beauté propre au fait de surplomber le monde, de voir l'aube se lever sur des montagnes violettes.
Vous avez fait un peu de voile quand même aussi.
Ah, j'en fais beaucoup, oui.
Donc ça, votre empreinte carbone, ça permet de contrebalancer. Oui. Olivier Rollin, restez avec nous. Extérieur Monde, publié chez Gallimard. Il est 8h56 dans les matins d'été.